Bonjour à tous et bienvenue sur le Cast Rétro. Ce soir, je vais accueillir Franck et Stéphane qui vont nous parler de Final Fantasy VII. Comment ça va les gars? Est-ce que vous allez bien?
Très bien.
Très bien.
Bon, bah super. Donc Final Fantasy VII, c'est un jeu qui est sorti, si je dis pas de bêtises, en 97 sur PlayStation 1, sorti en 98 sur PC. Voilà, je pense pas dire de bêtises là-dessus. Donc alors, vous verrez, mes deux invités, eux, connaissent très bien le sujet, je connais un petit peu moins, donc dans cette émission, vous allez moins m'entendre que peut-être d'autres émissions, mais ça va être tout aussi intéressant. Et on va commencer tout simplement, est-ce que vous connaissez ces deux versions, bien sûr? Est-ce que vous connaissez des versions peut-être spécifiques au jeu? Je sais qu'il y a une version remake, il y a une version Rebirth qui arrive également. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui. Plusieurs versions de Final Fantasy VII, notamment une version que j'apprécie beaucoup, c'est une version qui a été patchée par un forumer qui s'appelle Acro sur le site ff7.fr. Je pense que c'est le site le plus célèbre en France sur FF7 du jeu vidéo.
C'est une référence. Ouais.
C'est une référence même. Je me suis inspiré, j'en parlerai un petit peu plus tard, pour faire une perfectissime partie sur le jeu que j'ai poussé à l'extrême, mais vraiment à l'extrême. Et cette version, elle est patchée, c'est-à-dire qu'elle a été retraduite. Donc, le gars en question a mis 6 ans pour retraduire le jeu entièrement du japonais qui avait subi la plus mauvaise traduction qu'un jeu vidéo puisse avoir. Parce que même si le jeu sur PC a été retravaillé au niveau graphique, il a subi encore ses problèmes de traduction. Et sur un JRPG japonais, ben ça, on imagine bien que ça pose des problèmes.
Il y avait des problèmes de cohérence. À l'époque, quand ça a été traduit, en fait, les jeux, principalement, ils étaient pris du japonais pour être passés en américain, et de l'américain, ils étaient retraduits dans les différentes langues. Et du coup, déjà que le japonais s'est soumis à pas mal d'interprétations, au moment où il passait en américain, il y avait déjà de la perte, et après, on avait encore de la perte au niveau des autres langues. Et du coup, il y a pas mal de scènes dans le jeu qui perdent beaucoup de leur cohérence, voire même qui n'ont plus aucun sens. Et là, bah, retraduire directement du japonais, c'est vrai qu'on va récupérer des parties de dialogue, des contextes de l'histoire qui sont intéressantes.
Ok, trop bien. On y reviendra
sur les modes, les patchs,
etc. Oui, bien sûr, bien sûr.
Pour ma part, le premier contact sur le jeu, bah, c'était sur PS1. Je pense que Franck, c'était pareil.
Tout à fait.
Et bah, moi, ça a été une claque à l'époque, puisque je venais plutôt des jeux type platformer 2D. Et moi, j'étais issu de la Mega Drive. Et du coup, là, on arrive sur un univers 3D déjà. Pour moi, c'est la découverte des RPG et même des JRPG. Et puis, bah, aujourd'hui, la passion, elle continue parce que j'adore continuer des parties sur des JRPG, découvrir les nouveautés qui sont dans le domaine. Ça me tient encore, quoi.
Oui, clairement. Et je ne sais pas si on peut faire juste une toute petite aparté là-dessus, mais je pense que FF7 a aussi été un gros tremplin pour la PS1 parce que c'était un jeu qui était très attendu. Notamment au Japon, hein, mais même aussi par chez nous, parce que c'était vraiment, comme tu dis, une grosse claque à l'époque pour un jeu vidéo. Donc, on en parlera encore plus en détail avec le marketing, mais je pense que vraiment, ça a apporté des choses aussi à la PS1.
Clairement, Sony a bénéficié un petit peu de la popularité qu'avait Square Enix maintenant, mais Squaresoft à l'époque, avec les précédents Final Fantasy qui étaient sur support Nintendo. J'y reviendrai aussi plus tard dans le cast. Et ça a aidé un petit peu aux ventes de la PlayStation, très certainement. Après, la PlayStation, elle a surtout eu des ventes incroyables parce qu'elle était très facilement hackable.
Oui.
Et ça a favorisé la vente de matériel parce qu'on n'avait pas forcément besoin d'acheter les jeux.
Clairement.
Voilà.
T'avais déjà la PS1, toi, avant FF7 ou tu l'as acheté justement par rapport à FF7? Tu te rappelles?
Alors non, moi je ne l'ai pas acheté par rapport à FF7, je pense que je l'avais déjà, il me semble que je jouais déjà à Tomb Raider 2, à Gran Turismo, des choses comme ça.
Ouais, pour moi, ouais.
Mais quand le jeu est arrivé, ça a vraiment éclipsé tous les autres, et déjà parce que c'est un RPG et que ça prend beaucoup de temps à finir, mais aussi parce qu'une fois tombé dans cet univers, ça a été tellement incroyable que je n'ai pas pu lâcher, et aujourd'hui encore, c'est un jeu auquel je joue, quoi.
Ouais, clairement. Et du coup, pour toi, pareil, le premier contact, ça a été sur PS1, Franck?
PS1, ouais, premier contact. Par contre, j'ai une histoire un peu différente de Stéphane. C'est qu'on m'avait prêté le jeu à l'époque. Et quand je l'ai essayé, au bout de 20 minutes, j'ai vu cet univers cyberpunk, un peu sombre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est, vulgairement, cette merde? Et je me suis dit, mais je vais jamais jouer à un jeu pareil. Alors, je connaissais pas du tout l'univers RPG. Moi, j'étais plus plateforme, Crash Bandicoot, j'étais plus Tomb Raider. Et en fait, de découvrir de but en blanc cet univers un peu spécial où il y a des textes à lire, une équipe à former.
Il y a beaucoup de narration.
Ça m'a pas plu sur le premier abord, donc j'ai laissé tomber pour revenir. Alors, je saurais pas dire combien de temps j'ai mis, peut-être 2 mois, pour revenir sur le jeu. Et alors là, maintenant, j'en suis à, je sais pas moi, 30 fois fini et peut-être 3000 heures dessus, facile.
Et justement, le fait que tu sois revenu dessus, tu penses que... Parce que justement, tu en as entendu parler beaucoup et tu t'es dit, il faut quand même vraiment que je me mette sur ce jeu.
C'est un petit peu ça. En fait, je suivais la presse papier et il y avait des tests qui tournaient, ils en parlaient beaucoup. 9 sur 10, 18 sur 20. Et je me suis dit, j'ai dû louper quelque chose. Et en parlant avec les copains, je me suis replongé dans cet univers. Et puis, ça a été vraiment un électrochoc. Un électrochoc à tel point que Final Fantasy VII, je le place top numéro 1 de mon classement personnel, tout jeu vidéo confondu.
Ok, c'est vraiment pour toi, c'est vraiment une référence. Quoi. Ok.
Ouais, vraiment la référence à tout point de vue. Mais on y reviendra dans le podcast.
Ouais, non, mais c'est important. C'est important aussi parce que ça montre que des fois, il ne faut pas non plus rester sur vos avis et approfondissez la chose. Peut-être que, d'ailleurs, moi, c'est mon problème parce que j'ai eu le même effet que toi. Moi, il y avait trop de narration. Je voyais les gens qui passaient trop de temps au même endroit et tout. Et ça m'a un peu dégoûté du RPG. Et peut-être que même à mon âge, je peux y revenir et avoir un nouvel avis là-dessus. Quoi. Donc,
ouais, mais bien sûr, bien sûr.
Ah bah, c'est clair.
Alors, même si je suis d'accord avec certains, parce que jeuxvideo.com en parle beaucoup avec le remake et la deuxième partie qui va bientôt sortir, l'article disait... aujourd'hui, un novice ou un jeune joueur, quel a priori il aurait de se remettre sur Final Fantasy VII ? Nous, avec Stéphane, on le connaît donc, et avec les gens qui sont dans mon groupe essentiellement, on a connu en fait à ses premières heures le jeu, et c'est vrai qu'il y a cet effet nostalgique. Ouais. Et à chaque fois qu'on parle de Final Fantasy VII, il y a toujours ce mot qui revient, oui, mais vous aimez ce jeu parce qu'il y a la nostalgie qui rentre en compte. Ouais. Alors, je suis d'accord.
Un peu.
Mais... il faut savoir reconnaître quand un jeu est bon. Et ça, je peux citer le joueur du grenier qui a fait une excellente vidéo sur le fait où il dit « D'accord, il y a la nostalgie qui rentre en compte, mais je sais reconnaître à mon niveau et mon expertise de gamer, je sais reconnaître quand un jeu est bon. » Et Final Fantasy VII répond à plusieurs critères qui sont excellents.
Oui,
donc voilà, c'est sûr qu'un nouveau joueur, il aura du mal à s'y mettre parce que c'est quand même un gameplay particulier, c'est très old school, même s'il a beaucoup de codes qu'on aime, mais je pense que c'est important pour des joueurs qui aiment le RPG, le RPG japonais, de jouer à ce jeu-là. C'est dur de passer à côté de Final Fantasy VII. Je pense qu'on peut passer à côté de beaucoup d'autres jeux si on aime le RPG, mais celui-là, c'est vraiment difficile de passer à côté.
Oui, je suis d'accord. Ce qu'il en ressort régulièrement, c'est que dès que tu as touché un petit peu à ça, tous les gens qui ont joué, même à l'époque, à Chrono Trigger ou à d'autres jeux de ce type, bah, FF7, c'était quand même une grosse base pour le RPG en général. Quoi. Donc, on va en parler par rapport à ses mécaniques, au graphisme et tout ça, mais c'était vraiment important. Quoi.
C'est vrai que quand on compare à des jeux comme Secret of Mana, Chrono Trigger, bah, c'était eux à leur époque, sur Super Nintendo, des monuments aussi. Et effectivement, dans cette catégorie de jeux, des immanquables, quoi. C'est des incontournables. Il faut, enfin, surtout Secret of Mana et Chrono Trigger, c'est deux incontournables. Alors Chrono Trigger, un petit peu moins, parce qu'à l'époque, il n'était pas sorti en France. Oui. Mais Secret of Mana, ça fait partie des incontournables de la plateforme Super Nintendo, quoi. Et Final Fantasy VII, à mon sens, et je pense Francky me rejoint là-dessus, ça fait partie des incontournables PS1 dans la catégorie RPG et JRPG. Voilà.
Ouais, tout à fait. Tout à fait.
Il a posé énormément de bases hein, sur le sujet.
Je fais une petite aparté également. Est-ce que tous les deux, vous savez, le concurrent de Final Fantasy, il est sorti en 1987, le premier, mais quel genre de jeu est arrivé avant ?
Avant le premier FF, tu veux dire, NES ?
Qui a lancé un petit peu le genre un petit peu RPG japonais.
J'aurais dit Dragon Quest ?
C'est Dragon Quest, tout à fait.
Ah oui, ok.
Avec les fameux dessins d'Akira Toriyama.
Un point pour...
clairement, clairement.
Donc après, Final Fantasy a imposé ses codes, notamment la jauge ATB, hein, le tour par tour.
Ouais.
Et ça a beaucoup plu au public. Et c'est pour ça que la licence a percé, a autant percé du moins. même si elle a su se renouveler au fil des épisodes.
On a évoqué le premier contact. Est-ce que vous vous souvenez aussi de tout ce qu'il y a eu? Parce que tu m'as dit, Franck, que toi, tu suivais déjà la presse écrite à l'époque. Est-ce que tu te souviens un petit peu, justement, comment il était perçu par la presse à l'époque? Est-ce que tu te souviens peut-être de quelques pubs, peut-être, qu'il y a pu avoir autour de cet opus?
Alors, on en avait discuté un petit peu avec Stéphane, là.
Ouais.
C'est vrai qu'au niveau de la publicité, non. Personnellement, on n'a pas trop de souvenirs. Moi,
Non,
perso,
ok.
non, Stéphane non plus. On ne voit pas d'être devant la télé, avoir une pub sur Final Fantasy VII. Il n'y a rien qui me vient en tête. Alors, peut-être
Ouais.
que les auditeurs, eux, se rappellent de quelque chose. Par contre, au niveau de la presse, oui. C'était annoncé, il y avait de la pub. Et puis, en fait, il faut savoir aussi une autre anecdote sur Final Fantasy, le côté marketing, le boîtier. Et ils ont choisi de faire un fond blanc. D'ailleurs, Stéphane le montra
Ouais.
à l'écran. Ils ont mis un fond blanc, en fait, pour attirer l'œil et pour se démarquer de leurs concurrents. Et ça marchait parce que quand on était dans un rayon, qu'on levait la tête et qu'on voyait des jeux PlayStation, on voyait cette image blanche avec marqué Final Fantasy, en gros, avec un...
Et
Bon, là, une tache et un cratère. Hein.
Ouais, c'est ça, mais c'est cette comète qui arrive, c'était assez
c'est
parlant.
Incroyable. Là,
Ouais.
À l'époque, c'était révolutionnaire, vraiment.
Ouais,
Rien
je suis
que sur le
d'accord.
marketing, ils avaient tout compris.
Je suis d'accord. Oui, parce que il y avait beaucoup de boîtes où tu avais un extrait du jeu, quoi, un shoot du jeu ou un artwork dessus et qui était plutôt très coloré, quoi, par rapport à FF7 qui, lui, avait juste ce fond blanc et le nom, en plus, marqué en grand dessus. Donc, je pense que ouais, ça a dû jouer aussi dans les étals à ce que les gens s'interrogent
Ouais,
à savoir ce que c'est,
ouais,
quoi.
c'est...
Alors, concernant les pubs, moi, je l'ai revu. Ceux qui étaient certainement peut-être un peu plus âgés que nous et qui ont vu la pub doivent s'en rappeler parce qu'elle était incroyable. Quoi, vraiment, ils avaient fait une pub télé qui était assez folle et on voyait toute la 3D et tout, qui était vraiment très novatrice à l'époque.
Pour mettre aussi un petit peu de le jeu et la publicité dans le contexte de l'époque, on est quand même en 97, il y a pas ou peu de chaînes dédiées jeux vidéo, manga, enfin comme ce qui peut être Game One ou manga ou J1 aujourd'hui. Et donc, la publicité, bah, fallait que ça passe sur les chaînes classiques, quoi, la 1, la 2, la 3, la 6. Enfin, grosso modo, il y avait principalement que ça à l'époque. Et bah, ces chaînes-là, elles passaient autant des pubs pour Coca-Cola, Danone et tout ça, que
Oui.
pour le jeu vidéo. Donc, je pense que alors les spots, je me suis renseigné avant pour préparer l'émission. Il y a eu 3 spots publicitaires qui ont été faits. Je pense qu'ils ont été faits principalement pour le marché américain parce que
Oui.
le Square America avait mis plus de 100 000 dollars à l'époque sur la publicité, donc pour faire tourner ces spots publicitaires. Mais en France, je pense qu'ils ont été très peu diffusés. En tout cas, nous deux, on n'en a aucun souvenir.
Ouais, bon, non plus.
Peut-être que si on les revoyait, il faudrait que j'aille les chercher sur le net. Si on les revoyait, peut-être qu'on se dira ah, mais oui, c'est vrai, il y avait ce spot. Mais là, comme ça, de but en blanc, il n'a pas souvenir. Par contre, la presse papier,
Ah
elle
oui.
était dithyrambique sur le jeu. C'était des éloges, c'était attention, pépite en provenance du Japon, quoi. Et ils ne se sont pas
Ouais.
trompés.
Ouais,
Enfin, à mon
clairement.
sens.
Beaucoup ont découvert les jeux vidéo via le bouche à oreille ou des magasins spécialisés. C'est vrai qu'il y avait aussi ça.
Oui, ouais, clairement.
Donc, il y avait la presse écrite qui était beaucoup plus importante que ce qu'elle peut l'être malheureusement aujourd'hui. Mais Internet, c'était vraiment les tout prémices et peu avaient accès à Internet. Et encore moins des vidéos, quoi. En fait, au pire, vous aviez des forums, des choses comme ça qui pouvaient
Ouais,
en parler. Mais
l'internet
c'était.
pas très
Ouais,
démocratisé encore.
on est d'accord. C'était vraiment une petite niche. Et après, oui, en effet, c'était bah, vos potes à la cour d'école qui vous disaient bah, tiens, j'ai acheté tel jeu, il est incroyable. Et comme tu disais, Franck, hein, tu te faisais prêter le jeu et tu pouvais découvrir le jeu comme ça, quoi.
Ah, de toute façon, dans les cours d'école, c'était
Ouais.
le jeu vidéo et les mangas avec Dragon Ball.
Ouais,
Donc,
on est
les sujets.
d'accord. Et les magasins spécialisés, en effet, qui sont toujours là, hein, d'ailleurs, pour quand vous voulez découvrir des jeux. Alors, beaucoup moins qu'à l'époque, hein, ça, on est d'accord. Mais il y a encore quelques magasins chez lesquels vous allez trouver des vrais passionnés et qui sauront vous aiguiller sur des jeux peut-être qui vont sortir de l'ordinaire. Parce que FF, à l'époque, c'était quand même pas la licence la plus connue par chez nous, quoi, clairement.
L'avantage, je trouve, à l'époque pour les magasins spécialisés de jeux vidéo, c'est qu'on avait des vrais passionnés parce que le gaming n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui,
Ouais.
c'est un média qui dépasse en termes d'argent brassé, le cinéma et
ah oui.
la musique confondus.
Oui, c'est l'industrie numéro un.
C'est énorme. À l'époque, c'était quand même beaucoup plus de niche et les gens qui étaient dans des boutiques de jeux vidéo jouaient aux jeux vidéo et étaient capables de donner un vrai conseil. Aujourd'hui, je trouve qu'on perd un petit peu. Attention, hein, un petit peu. On est un peu moins là-dedans. Je trouve qu'on est plus dans le vendeur Ikea ou le roi Merlin Casto. Il y a encore des passionnés, bien sûr. Je trouve qu'on a perdu quand même ce côté très spécialisé dans les boutiques spécialisées. Et en plus,
ouais.
Bah, comme elles sont en difficulté, elles se diversifient dans les funky pop, machin, les accessoires. On perd un peu la fibre vraiment gaming.
D'accord,
et
complètement.
À l'époque, bah, quand on allait demander un conseil, on avait un conseil vraiment avisé d'un mec qui avait joué, poncé même le jeu et qui pouvait dire...
Oui, qu'il avait testé.
Là, si t'aimes ça, ça et ça, celui-là, il faut y jouer, c'est le top. Voilà.
C'est vrai.
Donc
c'est
ça contribuait beaucoup aussi à l'acte d'achat à l'époque, surtout que bah, on était au collège, on n'avait que notre argent de poche et il fallait pas qu'on se plante sur un jeu vidéo. Aujourd'hui,
ouais.
on a tout un travail, on a des revenus qui sont différents que l'argent de poche de l'époque et on peut se permettre de se planter sur un jeu, il n'y a pas péril en la demeure. À l'époque, c'était 2-3 jeux par an, un anniversaire, un Noël, et le reste, c'était l'argent de poche, quoi.
Oui, je
Donc,
suis d'accord.
ouais, on se renseignait peut-être plus qu'aujourd'hui avec la presse papier, dans les boutiques. Ouais.
Oui, tu faisais vraiment attention à ce que tu allais prendre, et voire même tu te mettais en accord avec certains potes en te disant bah, toi, t'achètes celui-là, moi, je prends celui-là, et comme ça, au moins, on sera sûr de pouvoir jouer au moins à ces deux jeux-là, quoi.
Et puis, bah, effectivement, le physique, nous, on le dit régulièrement sur notre groupe Facebook, le physique, maintenant le physique, puisque à l'époque, bah, on se prêtait les jeux, ce qui permettait d'essayer. Et puis, bah, FF, on a essayé et on a fini par l'acheter, parce qu'on aimait tellement le jeu, on voulait se l'avoir pour nous, on voulait pouvoir y jouer quand on voulait, et pas être dépendant du bon vouloir du copain.
Et du coup, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le lore du jeu? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que là, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire, surtout sur un RPG. Le lore est très important. S'il y a des, bah, voilà, si vous pouvez nous expliquer un petit peu les personnages qu'on va retrouver dans cet opus, si on les retrouve peut-être dans d'autres épisodes aussi, ça peut être intéressant.
Eh ben, déjà, claque. C'est un mot qui va revenir souvent hein, dans le cast, la claque. Ça a été une claque parce que on venait avec les précédents FF et beaucoup de RPG d'ailleurs à l'époque dans des univers médiévaux fantastiques principalement. Et là, on arrive dans un univers beaucoup plus moderne, beaucoup plus contemporain, avec des machines, de l'exploitation de ressources de la planète, des enjeux politiques, etc. Donc, c'était quand même un peu plus adulte, un petit peu plus mature aussi en termes d'histoire qui était racontée. Ça changeait du méchant chevalier qui veut conquérir le royaume et puis nous, braves défenseurs des libertés contre l'oppresseur. Là,
ouais.
On était quand même sur des enjeux beaucoup plus politiques, sur des enjeux environnementaux parce qu'on essayait de sauver quand même un peu la planète. Donc, c'était une claque. Et nous, qui étions préadolescents, on rentrait dans l'adolescence, d'avoir ce jeu un petit peu plus adulte dans sa narration, c'était assez jouissif en fait parce qu'on se dit « Ah, ça y est, on est des grands là, on peut commencer à jouer à des jeux adultes. » Après, bien sûr, il y a eu toute la partie durée de vie qu'on ne connaissait pas à l'époque parce que les jeux étaient sur cartouche. Là,
ouais.
On parle d'un jeu sorti sur 4 CD quand même. 4 CD, ça permettait de mettre énormément de données à l'intérieur. On y reviendra sur les données. Il y avait aussi les musiques qui étaient en qualité CD pour le coup, mais il y avait de la place pour la narration. Donc, il y a eu pas mal de personnages secondaires qui étaient assez approfondis, assez travaillés, avec une histoire qui leur est propre, même s'ils sont secondaires. C'est même des personnages qu'on pourrait presque passer à côté, quoi.
Ouais.
Mais ils ont une vraie histoire qui est développée, qui est hyper intéressante pour la plupart. Et puis, bah, l'histoire principale qui est assez tortueuse, avec aussi une intrigue, là, je vais peut-être laisser Franck en parler, sur le némésis de cet épisode, l'antagoniste principal. Je vais laisser Franck en parler, parce que je pense qu'il en parlera mieux que moi. Sur comment on a découvert ce méchant, quoi.
Oui, effectivement, le méchant du jeu vidéo, pour moi, s'il devait en rester qu'un, ça serait le nom de Sephiroth. Un personnage qui a fait frissonner quand on était gamin. D'ailleurs, c'est vraiment une aparté et une claque qu'on a pris à l'époque, qu'on ne prend plus maintenant avec le remake qui est sorti en 2020 et avec l'attente de la part 2 qui arrive en février. C'est un méchant qui a été trop banalisé à mon goût. Hein. C'est une réflexion personnelle que j'ai eue il n'y a pas longtemps,
et que je partage.
Que Stéphane partage. Et en fait, dans cette histoire en fait cyberpunk, on découvre en fait un garçon torturé qui a perdu la mémoire et qui se lance dans l'aventure, qui se forme une équipe. Ça, c'est le propre au JRPG japonais. Et on va suivre en fait ce méchant qu'on ne voit jamais. un peu à l'instar des Dents de la Mer, où le requin, on en parle beaucoup et on le voit pas.
Mais il suggérait,
c'est l'effet escompté en fait par les créateurs du jeu, où ils ont voulu en fait nous attirer vers quelque chose d'un peu mystérieux, un homme, un super soldat, ils l'ont annoncé comme ça, très puissant. Moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. Le personnage de Sephiroth est vraiment charismatique, il est vraiment incroyable sur tous les points de vue. C'est même son histoire, quand il apprend en fait finalement qu'il a été créé de toutes pièces et qu'il n'est pas venu au monde comme les autres, et ben en fait il pète un boulard hein, complètement. Et c'est vrai qu'on suit ça, on voit ce Clad un peu déboussolé également, on prend parti. Alors il y a deux écoles, moi je suis pro Clad parce que j'aime ce héros, mais il y en a beaucoup qui disent que c'est un héros un peu qui n'a pas de charisme parce que ben, justement il subit, il est toujours en train de pleurer. Ça peut se comprendre, mais faut remettre en fait quand on finit le jeu. Alors, et ça c'est un gros point du scénario, c'est que quand on est gamin, moi en cinquième, je vous cache pas que quand j'ai fini Final Fantasy VII, je n'ai pas compris la moitié du scénario. J'étais pas assez mature pour pouvoir avoir ce recul et de me dire mais qu'est-ce que c'est cette histoire de clonage. Donc en fait il y a vraiment toute une histoire avec ce méchant Sephiroth qui vraiment fait tout le jeu à lui tout seul, mais pas que. Il y a son système de matéria qui est vraiment novateur à l'époque, son histoire de jongler avec les différents personnages. Alors malheureusement, on peut avoir qu'une équipe de trois et pas bouger le héros, comme certains Final Fantasy où on pouvait vraiment choisir les quatre personnages qu'on voulait. Mais ça importe, je trouve que c'est vraiment volontaire de se dire, vous jouez à Final Fantasy VII, vous incarnez Cloud, et vous allez jouer jusqu'à la fin. Voilà, il n'y aura pas de « oui, mais moi je préfère lui, je préfère lui ». Après, vous faites votre équipe comme vous voulez, mais vraiment, c'est centré sur Cloud et sur Sephiroth.
C'est un parti pris. Hein.
Parti pris, et avec le triangle, hein, le triangle avec Aerys, l'une des héroïnes de Final Fantasy les plus cotées en fait, de la licence, qui m'a marqué, qui m'a marqué par son thème musical, qui m'a marqué par sa prestance et par son histoire également. Non, il y a beaucoup de choses à raconter, et comme disait Stéphane, chaque personnage a vraiment des petites histoires, et c'est vraiment des histoires qui, des fois, durent quoi ? Une heure sur le temps de jeu, mais une heure de symbolique.
Ouais.
Je pense notamment à Barrett, l'acolyte de Clad, qui a une histoire aussi incroyable. On apprend comment il perd son bras, et pourquoi il met une mitrailleuse à la place. C'est vraiment des petites choses qui font que ce jeu, bout à bout, a plein de petites histoires qui sont passionnantes, et à la fin, il y a un dénouement qui est quand même incroyable. Donc voilà, donc, c'est vrai que si vous n'avez jamais joué à Final Fantasy VII, il faut se lancer, parce que même en connaissant le jeu par cœur, et je sais de quoi je parle, j'ai 3000 heures, j'ai poncé le site ff7.fr de fond en comble, mais je découvre encore des choses aujourd'hui. Il y a des fois des mystères et je me dis « Oh, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Est-ce que c'était volontaire ou pas ?» J'ai même acheté tous les livres, les légendes de FF, et notamment celui du 7, pour justement voir si j'avais pas des choses qui m'avaient échappé dans le scénario. Non, c'est très très puissant.
Et il y a une chose qui revient dans le chat et qui est très importante, c'est qu'ils avaient su donner un certain charisme à ces personnages. Et ça aussi, c'était assez nouveau. Les personnages étaient assez lisses jusqu'à présent. Là, ils avaient vraiment des caractères, ils avaient vraiment quelque chose en plus. Et en effet, ce côté futuriste qu'on avait peu l'habitude aussi de voir dans le jeu vidéo en général, même hormis des Robocop ou des choses comme ça. Mais c'était quand même quelque chose qui était peu vu pour un jeu vidéo.
Bah, c'était extrêmement mature parce que l'ambiance générale, elle est quand même assez sombre. Hein. On parle quand même d'un monde qui est en péril, qui est en déperdition, qui va mourir. Quoi. La planète est en train de mourir. On a des personnages qui sont extrêmement torturés avec un background psychologique qui est quand même assez, assez sombre, assez noir. Le héros, il est torturé, il a perdu la mémoire, il transpose son identité avec un autre. Enfin, on est dans les troubles de la psyché assez importants. L'antagoniste principal, qui lui aussi est torturé, qui a complètement vrillé, alors qu'avant c'était le super soldat, mais au service de la nation, et aujourd'hui c'est l'ennemi à abattre numéro un, parce qu'il est devenu complètement fou en apprenant sa propre histoire, qu'il ne connaissait finalement pas. Et puis on a aussi tous ces personnages secondaires qui vont enrichir un petit peu le scénario, le lore général, quoi, voilà. Et puis, au niveau des personnages, on a aussi des personnages récurrents. Alors, c'est pas le même personnage suivant les épisodes, mais c'est des noms de personnages qu'on retrouve. On retrouve Biggs, et Wedge, qui sont présents, en tout cas ces noms-là sont présents depuis l'épisode 4. On retrouve Sid, Sid qui a un nom de famille différent à chaque fois, mais qui est bien à chaque fois nommé comme Sid ou Sidolphus, qui lui est présent depuis l'épisode 2. Et puis on retrouve les chocobos, les mogs, les invocations. Les invocations, on retrouve régulièrement les trois invocations majeures qui sont Ifrit, Shiva et Bahamut. Ça, c'est des incontournables de la licence aussi. Et là, bah, ils sont magnifiés avec justement ces animations en 3D, avec des couleurs justement par rapport à l'ambiance générale qui est plutôt sombre, des couleurs bien pétantes au niveau des invocations, Ifrit qui est bien rouge, Shiva qui est bien bleu. Non, c'était incroyable, c'était incroyable.
La force des Final Fantasy, en fait, d'épisode en épisode, d'avoir gardé des codes, ce qu'on appelle des codes à respecter. Les invocations, ouais. Les noms des personnages, et ce qui a pu faire débat d'ailleurs sur Final Fantasy XVI, ce qui fera l'office d'un autre podcast, mais vraiment, pourquoi il y en a qui disent que Final Fantasy XVI n'est pas un Final Fantasy, alors que moi je trouve que si, parce que les codes sont respectés,
exactement.
Les noms sont là, les invocations sont là, les mugs sont là. Donc du moment où on retrouve cette essence même, pour moi le titre peut être qualifié de Final Fantasy.
Il est légitime, quoi.
Et puis, ouais. Il faut qu'ils évoluent avec son temps. On ne peut pas ressortir des Final Fantasy VII à toutes les sauces, à chaque fois.
Non, mais c'est je suis d'accord. Que... on le voit sur d'autres licences, quoi.
Ouais. C'est ça, ouais.
C'est ce qu'on reprochait à Assassin's Creed, par exemple, régulièrement. Et au final, voilà, il faut de savoir, ouais, voilà, il faut savoir sortir un petit peu des codes. Et si ça se vend toujours autant... Alors peut-être que vous, ça vous plaît plus, mais c'est aussi parce que bah il faut qu'ils s'adaptent aux acheteurs d'aujourd'hui, quoi. Donc voilà.
Bah, c'est vrai que nous, on pourrait s'auto-qualifier comme fanboy de l'extrême de Final Fantasy VII et que tout le reste c'est pas terrible parce que ce n'est pas Final Fantasy VII. Mais après, on sait aussi faire la part des choses et reconnaître la qualité d'autres Final Fantasy, comme disait Franck, parce que les codes sont là, parce que c'est travaillé, parce que le lore ouais. général est quand même profond, parce qu'il y a une vraie histoire, etc. Donc,
oui, c'est des vrais scénarios travaillés, quoi, clairement, ouais. clairement.
Et puis, des jeux comme Final Fantasy VII, au niveau du gameplay, j'entends, c'est souvent ça qui est critiqué, en fait, parce qu'on a perdu le tour par tour. Souvent, en fait, les gens critiquent plein de choses, mais quand tu creuses, qui revient, ah ouais, mais c'est plus un tour par tour. Ouais, d'accord, mais en fait, des JRPG au tour par tour, il y en a encore, plus dans la saga Final Fantasy, d'accord, mais si t'en veux, il y en a, voilà. Jouer oui. à Octopath Traveler 1 et 2 qui sont des titres excellents en HD 2D qui sont incroyables et puis c'est vraiment du tour par tour comme à l'époque quoi voilà
non, il faut savoir en fait, être ouvert il faut avoir une ouverture d'esprit et savoir évoluer avec son temps et se dire ok ma saga elle a évolué maintenant les codes sont toujours là et puis bah, si le scénario me hype si je suis intéressé par ce jeu ne pas me bloquer parce que c'est pas un tour par tour. C'est vraiment le message qu'on essaie de passer à tout le monde. Et comme dit Stéphane, si vous voulez du tour par tour, il y en a des milliers de genres. Des milliers, j'exagère. Mais sinon, vous remettez une console old school, vous faites du tour par tour. Et puis, bah, sinon, vous jouez oui, aux jeux récents, tour par tour qui sortent. C'est vrai que Final Fantasy a quitté ce schéma pour déplaire, oui ou non. Après, on aime, on n'aime pas. Moi, je suis partisan d'évoluer. Voilà, j'évolue avec mon temps et j'aime revenir sur Final Fantasy VII de 1997 à l'ancienne. Pour me refaire du tour par tour quand c'est nécessaire.
Oui, oui, et je pense que on a la chance maintenant de pouvoir avoir beaucoup de fantrad de jeux qui à l'époque étaient sortis par exemple exclusivement au Japon et qu'on peut rejouer aujourd'hui avec des traductions françaises propres. Alors t'en as parlé pour FF7, mais je pense à plein d'autres RPG qui étaient comme Chrono Trigger par exemple qui était peut-être passé inaperçu chez nous parce que c'était trop compliqué. Aujourd'hui vous pouvez vous les refaire très facilement quoi donc en effet même dans le rétro il y a encore beaucoup beaucoup de choses et puis après il y a plein de jeux indés en JRPG qui existent et sur lesquels vous pouvez vous faire plaisir où il y a encore du tour par tour sans souci également ouais, clairement.
Bah, ça justement c'est un fil rouge que j'ai attaqué sur ma chaîne c'est que j'avais fait Chrono Trigger il me reste peu de choses je suis à la fin en version traduite là j'ai attaqué Bahamut Lagoon qui est un JRPG un tactical JRPG qui est vraiment très joli pour son époque sur Super Nintendo pareil hein, en traduction française et je joue tout ça sur support original à travers un Everdrive donc c'est une sorte de carte mode multijeu où on met une carte SD avec nos jeux dessus mais vous avez aussi des cartes mode vous avez l'émulation, aujourd'hui c'est quand même assez facile, je dis pas gratuit hein, mais c'est assez facile de jouer aux jeux de l'époque retraduits, patchés avec des bugs corrigés, oui aujourd'hui vous avez des mises à jour sur les jeux rétro parce que des passionnés sont venus corriger les petits bugs pour pouvoir redonner vie au jeu de l'époque, quoi. Donc c'est cool.
Et du coup, si on rentre un petit peu dans le détail du jeu, on en a abordé brièvement tout à l'heure, mais la DA, le côté graphique, les OST, pareil, c'est une partie très importante de cet épisode. C'est le premier FF en 3D qui est sorti. Donc,
En fait, là, on avait connu tous les FF en 2D, même s'il y avait un petit peu de 3D isométrique, on était majoritairement sur de la 2D. Et là, ça y est, on est sur de la 3D en monde ouvert, où on peut faire tourner la caméra sur nous-mêmes, où on peut naviguer vraiment dans les villes, sur la map monde, quoi, en 3D. C'est incroyable. C'est Hironobu Sakaguchi qui est aux manettes de la production et de l'histoire originale. Donc lui, il connaît très bien la licence parce qu'il est, il est sur la licence en tant que producteur depuis le premier épisode. Donc il a quand même cette expérience de 5 épisodes derrière. Et ouais. Puis on a Nobuo Uematsu qui est à la composition musicale. C'est une merveille. C'est vraiment du miel pour les oreilles. Et en plus, le génie d'Uematsu et je pense la collaboration avec Sakaguchi et le reste de l'équipe, c'est vraiment d'avoir réussi à faire coller les musiques qui sont au passage mais vraiment incroyables avec l'ambiance du jeu, au moment du jeu, avec la dramaturgie de la scène, et vraiment tout colle. Vous avez des musiques entraînantes, un peu avec un aspect épique quand on est en combat ou quand des boss. Vous avez des choses beaucoup plus douces quand on est dans des jardins avec des fleurs, etc.
Ouais, un peu mélancolique et tout. Ouais.
Et pour un japonais, il a réussi à composer des musiques un petit peu plus western quand on est dans un monde un petit peu désert. Enfin, c'est très varié. Et ça colle toujours au moment et à l'histoire et au personnage aussi qu'on est en train d'aborder dans le jeu. Donc c'est assez incroyable à ce niveau-là, je trouve. Et puis bah, la DA, les décors, ils sont fournis, ils sont détaillés. C'était une vraie claque visuelle et auditive à l'époque. Hein.
Je prends un exemple tout simple. Un des thèmes les plus marquants de Final Fantasy VII, c'est le thème de Red 13 de Nanaki, du Canyon Cosmos. Et en fait, il a réussi à retransmettre cette musique un peu tribale avec des tambours. Ouais. Et rien que d'en parler, j'ai la musique en tête. Et ça, pour moi, c'est un pari gagné.
Et moi, j'ai les frissons.
C'est 100% gagné. Et je pense que tout fan de FF7, quand on évoque le Canyon Cosmos, qui est une des villes de Final Fantasy VII, on revoit en fait cette petite musique avec ce lion en fait qui arrive et qui court. C'est juste incroyable. Mmh. Et Stéphane a vraiment bien résumé chaque thème musical à propre au personnage. Vraiment, que ça soit quand c'est vraiment le personnage de Cid qui vit un drame avec sa fusée, on apprend des choses. Et là, vraiment, le thème s'élance comme un jardin fleuri avec la fameuse Aeris, très douce et qui va nous marquer. Non, vraiment, c'est un pari gagné. Alors, il était très bon dans les 5 opus précédents.
Oui.
Il a été très bon dans les suivants parce qu'il est resté aux manettes. Mais dans le 7, je trouve qu'il a vraiment poussé les compteurs à l'extrême.
Du coup, on peut déjà en faire une aparté, même si c'est peut-être une anecdote. Mais faut savoir qu'en fait, il voulait absolument un support CD pour justement pouvoir placer tout ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il voulait placer les cinématiques, il voulait placer les musiques tels qu'ils les avaient composés en fait, hein. Et donc c'est aussi pour ça qu'ils ont choisi Sony et plus Nintendo, qui eux voulaient rester enfermés dans leur format de cartouche. Et c'est ça fait, c'est ouais. Vraiment un gros aspect, un gros changement dans chez Square en l'occurrence, parce qu'ils voulaient absolument ce support CD pour pouvoir placer leur cinématique et leur audio comme ils l'entendaient, quoi.
Ben, un petit peu plus loin que ça, c'est vrai qu'on prend un peu de l'avance sur les anecdotes, mais effectivement, le jeu était vraiment initialement prévu chez Nintendo, hein, pour la 64, l'Ultra 64, comme ils l'appelaient à l'époque.
C'est ça.
Et en fait, Square a été vraiment déçu par les capacités limitées, on va dire, de la 64. Je ne remets pas en doute les capacités de la console, il y a eu des jeux incroyables dessus, mais par rapport aux ambitions de Squaresoft à l'époque sur le jeu, eh ben, ils ont délaissé Nintendo avec leur support cartouche pour le support CD, qui leur a permis effectivement de mettre des musiques en qualité CD et aussi d'apporter énormément de textures. Donc les décors sont très travaillés parce qu'il y avait la place de les stocker sur les CD.
Et ces disques, on pouvait les écouter en audio dans un lecteur CD. Parce que les premiers disques PlayStation, c'était comme ça, ils n'étaient pas protégés. Vous pouviez les mettre dans un lecteur de salon ou dans votre automobile quand vous aviez un lecteur CD et ça lisait les pistes. Je ne sais pas si c'est le cas pour cela ou pas.
Je suis assez sûr que non,
Ok.
puisque déjà pour une raison commerciale, puisqu'ils ont sorti les OST à part.
Ouais. Non, mais justement, ça avait posé polémique des tout premiers jeux, et c'était possible. Et après, il y a eu des plaintes déposées contre Sony parce que ouais, ils n'arrivaient plus à vendre leurs œuvres à côté sur des CD classiques, quoi. Donc,
Final, il me semble que non. Il faudrait que je vérifie,
faudra
mais
tester, ouais. Moi, ça me dit rien
il
non
me
plus.
semble que non.
Ok. Ok. Bon.
Mais par contre, ouais, les OST, enfin, l'OST est incroyable. C'est des choses que j'écoute encore aujourd'hui en
Ouais,
voiture,
sûr.
sans même jouer au jeu, quoi. Se rebaigner dans cet univers, c'est là où le génie d'Umematsu et de Sakaguchi parle. C'est qu'aujourd'hui encore, on se met les musiques et quand on a connu le jeu, on revit les scènes. C'était tellement marquant que, ouais, on revit les scènes. Chaque musique, on est capable d'identifier à quel endroit du jeu ça correspond.
Ouais, c'est très
Autant
marquant.
sur Final Fantasy VI, il y en a deux qui ressortent du lot, et pas, c'est pas des moindres, hein. On a le thème de Terra, l'ouverture du jeu de Final Fantasy VI, qui est peut-être numéro 1, tout FF confondu, et l'opéra, la scène de l'opéra. Vraiment deux thèmes qui sont marquants. Sur Final Fantasy VII, je peux en sortir 8 qui sont marquants. Donc rien que
Ouais.
ça, il y a une grosse différence avec les anciens opus, quoi.
Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait se relancer dans Final Fantasy VII, on va pas se mentir, c'est de la PS1, ça a vieilli, ça a même plutôt mal vieilli. C'est très pixelisé, même si nous, avec Franck, on aime toujours autant justement ce côté très rétro, ça pique un peu les yeux. Mais il y a des mods qui existent. En fait, ça, c'est un mod, donc c'est une personne son pseudonyme, je pense, c'est Satsuki Yatoshi. Il a compilé en fait plusieurs mods. Donc ça inclut la traduction Neo Midgar, donc tout retraduit depuis le japonais. Ça inclut des textures HD. Ça modifie les personnages, puisque ça c'est une chose qu'on n'a pas parlé. Mais quand on se déplace sur la map monde, les personnages ils sont en mode chibi, tout petit. Et puis quand on est en combat, on a les personnages vraiment taille réelle, un peu adulte, etc. Et ben là, ça remplace les textures des modes chibi pour mettre les personnages réels. On a tous les textures, les animations quand on fait des magies, type le feu, la glace, qui sont retravaillées, vraiment plus haute définition. Les musiques aussi sont retravaillées, puisqu'ils ont récupéré beaucoup de musique originale, mais jouée par les orchestres symphoniques, en HD aussi. Enfin voilà, des bugs corrigés aussi, parce qu'il y avait un bug, par exemple, que j'ai en tête, qui me parlait, c'est au début du jeu, on s'infiltre dans une tour, la tour Shinra. Et il faut, dans une bibliothèque, chercher des indices pour trouver un mot de 4 lettres qui va servir de mot de passe. Et en fait, dans la version PS1, le mot de passe, c'est Mako,
Ouais, je me
Mako, tout le
rappelle bien.
temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, le mini-jeu, il sert à rien, puisque le mot de passe, c'est tout le temps Mako. Ça, c'est un bug de la version PS1. Et ben en fait, il est corrigé dans cette version. Donc,
Trop bien.
ce mode-là, il fait une vingtaine de gigas, il s'installe sur PC. Il faut avoir le jeu original. Et je trouve ça bien de la part du modeur d'avoir exigé d'avoir le jeu original. Soit la version PC, soit la version PS1, soit la version Steam. Une fois que vous avez une de ces trois versions originales, vous lancez l'installation et ça vous copie sur votre disque dur une vingtaine de gigas. Et vous pouvez choisir en plus quelles améliorations vous voulez apporter dans le jeu. Si vous voulez les musiques originales mais les textures HD, si vous voulez conserver les effets de transparence parce que les nouvelles animations 3D bien stylées, elles n'ont pas cet effet de transparence, vous pouvez tout choisir. C'est un bonheur, et ça, pour redécouvrir le jeu aujourd'hui, vous avez un jeu avec des graphismes quand même beaucoup plus actuels, tout en gardant le jeu d'origine, avec une traduction en plus aux petits oignons, et des musiques qui peuvent être vraiment très épiques quand c'est joué par un orchestre symphonique, c'est vraiment le bonheur.
Ouais,
Donc,
carrément.
très sympa comme mode.
D'ailleurs, j'ai pas prévu d'en parler, mais faut savoir qu'il y a des concerts encore régulièrement sur les thèmes de Final Fantasy, même en France. Hein, je sais qu'il y en a eu un à Lyon il y a pas si longtemps. Et donc, vous pouvez retrouver de temps en temps des concerts avec des orchestres symphoniques qui rejouent des OST de Final Fantasy, peut-être des fois d'autres opus, mais là, en l'occurrence, je sais que sur FF, ça arrive régulièrement, quoi. Ça arrive régulièrement. Donc, est-ce que y a une chronologie dans les FF ou pas forcément?
Non,
Non,
il n'y a
non,
pas de chronologie, les épisodes se suivent, ne se ressemblent pas, pour reprendre
Ok.
une phrase connue. Mais il y a dans majoritairement tous les FF une espèce de thématique qui revient de manière récurrente, c'est la thématique du cristal. Un peu comme les Seiken Densetsu, donc Secret of Mana en France, où c'était l'arbre mana principalement. Et ben là, on a quand même souvent cet aspect cristal qui revient. Et d'ailleurs, ils ont fait des épisodes Crystal, je sais pas quoi,
Crystal
Crystal
Chronicle, Crystal,
Chronicle,
ouais.
voilà.
Ouais.
Et en fait, c'est vraiment le thème de FF1 qui a lancé la chose, à la recherche de ces cristaux, hein, pour sauver le monde. Donc, ça a été repris jusqu'au 6, donc ils sont restés quand même très longtemps sur les cristaux. Après, donc, ça a évolué, il y a eu d'autres choses. Et ce qui est drôle, c'est que dans le 16, dans le dernier en date, on doit les détruire, ces cristaux.
Voilà.
Alors, ils sont revenus au goût du jour, mais cette fois-ci, on les détruit. J'ai trouvé ça très intelligent.
Ah, trop bien. Et du coup, si on doit parler des autres FF, parce que ça peut être intéressant malgré tout d'en parler, les gens nous disent que de toute façon, les OST sont quasiment tous bons dans tous les opus.
Oui, bien sûr.
Franck, j'ai bien compris que le 7, c'était ton chouchou. Stéphane, je pense aussi, du coup.
Oui. Alors
Ok.
moi, je vais peut-être en choquer plus d'un parce que bah, justement, là, on est sur notre groupe Facebook, on est en plein tournoi FF, c'est-à-dire qu'on
Ouais.
essaye d'élire entre passionnés, donc 250 membres dans le groupe, le meilleur FF de tous les temps. Et là, bah, il y a eu dans les huitièmes de finale le FF15 et il s'est fait démonter au profit bah, de son concurrent. Et moi, je fais partie de ceux qui ont voté pour le 15 et notamment par rapport à sa bande originale. Puisque, si je dis pas de bêtises, c'était un des premiers FF qui avait des thèmes musicaux chantés, donc
Ok.
avec leur voix. Voilà. Alors, oui, dans le 7, il y avait le thème de Sephiroth, où il y avait quelques voix, des chœurs, etc. Mais là, on a une vraie chanson. Voilà, c'est pas juste une musique, c'est une chanson chantée, avec une chanteuse qui a une voix incroyable en plus. Et j'avais trouvé ça vraiment. Et puis, c'est en introduction du jeu. Donc, waouh, on arrivait en plus sur une génération où le jeu était une claque visuelle parce que graphiquement c'était magnifique et on avait cette musique chantée qui apportait beaucoup à l'ambiance
Ouais.
sur quelque chose très doux, une voiture qu'on voit s'éloigner au loin, enfin, assez incroyable. Mais tous les FF majoritairement ont eu des bandes originales assez incroyables, certaines plus mémorables que d'autres. Et justement, je prends cet exemple de FF15 parce que cette intro vraiment elle m'a marqué au fer rouge quoi.
Et Final Fantasy XVI, le dernier en date, justement, est peut-être un peu en dessous. En dessous, il n'y a pas de BO marquante. Et c'est une des
Ok.
premières fois, une première fois qu'on joue à un Final Fantasy et on n'est pas marqué par la musique. Moi, je l'ai platiné très vite d'ailleurs, je me suis mis dessus à sa sortie et quand j'ai fini le jeu, je me suis dit, mais je me souviens pas des musiques. Mais vraiment.
Ouais.
Donc, ouais, c'est un point négatif. Mais sinon, comme dit Stéphane, depuis Final Fantasy 1, avec les moyens du bord, hein, bien
Bien
sûr,
sûr.
avec la Famicom de l'époque, ils ont créé des sons qui ont réussi à nous garder, en fait, vraiment. Avoir cette passion de parce que le jeu Final Fantasy VII, c'est on se dit ouais le jeu Final Fantasy c'est le jeu mais il y a la musique qui va avec, c'est vraiment un tout en fait,
Ça y contribue
ouais.
beaucoup.
Ça y contribue énormément.
Il y a aussi dans les choses récurrentes entre les FF, il y a justement un thème de Final Fantasy qui est récurrent, qui est remodifié, qui est remodelé, qui est arrangé, mais on le retrouve quasiment dans tous, pour pas dire dans tous, hein, c'est le main theme, quoi. C'est le thème dans le set, c'est le thème du menu principal du jeu.
Ouais,
Dans
exactement.
d'autres, c'est dans le gameplay où on va avoir cette mélodie, ou dans l'intro, quand c'est des jeux plus récents avec des cinématiques, dans la cinématique d'intro. Mais on va retrouver toujours ce même thème. Et puis le thème des chocobos, je crois, est aussi assez récurrent. Hein,
Ouais,
voilà.
il revient, ouais.
Et donc, hormis le 7, si demain vous deviez conseiller des opus, lesquels sont les plus marquants pour vous dans la saga FF?
Bah, on vous dira ça quand on aura fini le concours
Ouais,
sur le groupe.
c'est. En fait, si je peux me permettre,
De tous les faire.
de tous les tournois que j'ai pu faire, il y a vraiment quatre opus qui ressortent beaucoup. La nostalgie encore qui va jouer, bien sûr. C'est je dirais, à partir du 6, pourquoi pas? Moi, j'ai pas connu le 6 à sa sortie, hein. Mais le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Ça fait cinq opus. C'est les
Ouais.
cinq opus qui se partagent un peu les foudres des fans. Et on va dire qu'après, beaucoup disent que c'est raté. Avant, beaucoup disent que bah, c'est trop vieux, on
C'est
n'a
pas
pas connu,
abouti,
c'est
ouais.
pas abouti, c'était toujours la même histoire, on se faisait chier hein, devant. Donc en
Ouais.
fait, 7, 8, 9, 10, c'est vraiment les épisodes phares de la licence. Je suis complètement d'accord avec ça.
Je partage aussi, ouais.
Voilà, Stéphane partage le même avis. Le 10, ce qu'il y a, c'est que c'est un. Pour moi, je l'ai toujours considéré, et ça me fait sourire, l'épisode qui met 99% d'accord tous les fans. J'ai rarement connu une personne qui dit du mal de Final Fantasy X par son histoire, c'était novateur parce que c'est la première fois qu'il y avait des voix. Donc on entendait donc le héros parler. Cette façon d'introduire le jeu, comment dire, il se parle à lui-même, le héros, et en fait, ça nous, on se sent moins seul quand on joue. On a ce fameux héros qui s'appelle Tidus, qui se parle à lui-même, et on se dit, il est dans l'inconnu, mais comme il se parle à lui-même, c'est comme si c'était nous qui vivions en fait cette aventure, et c'était très 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 novateur à l'époque. Et en fait, de A à Z, le 10 est vraiment un épisode très réussi. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui le placent au-dessus de Final Fantasy VII.
Le 10 a une particularité par rapport aux 7, 8 et 9, c'est que c'est un des premiers FF qui n'est pas en monde ouvert. Et moi, à l'époque, je ne l'avais pas fait à l'époque, le 10, parce que ce côté couloir m'avait vraiment dérangé. Et finalement, j'y suis revenu sur le tard, j'y suis revenu en version HD remaster sur la PS Vita, et je l'ai
Ok.
platiné sur PS Vita, ce qui est une épreuve en soi, parce que sur la PS Vita, ça buguait, il y avait des lags,
Ah ouais, ok.
c'était chaud, mais j'ai réussi à
Et
avoir
en
le
termes de
platine.
gameplay, non, parce, la PS Vita était pas quoi, moi, pour moi, j'en ai une, hein, mais c'est pas la console avec le meilleur gameplay au monde, quoi. Je trouve les sticks et tout
Alors,
sont pas ouf,
on
quoi.
pourra en débattre si tu veux. Moi, je la
C'est
trouve incroyable, cette console.
vrai? Ok.
Ouais, moi je la trouve incroyable, je la trouve sous-exploitée par Sony, mais je la trouve quand même incroyable. Mais j'ai adoré jouer à ce FF10, le de redécouvrir des années après sur ce
Ouais.
support mobile, puisque bah, j'y jouais dans le métro, je me faisais 10 minutes dans le métro et j'avançais comme ça. Bah oui, je l'ai fait, je bossais, j'avais pas les vacances scolaires, j'étais dans le monde du travail, j'avais pas autant de temps qu'avant à y consacrer. Et du coup, le fait de l'avoir en mobile, sur ma PS Vita, j'y jouais dans le métro, j'y jouais en pause déjeuner, j'y jouais. Avant de me coucher, enfin, c'était tout le temps avec moi en fait. Ça m'a suivi pendant quelques semaines, quelques mois pour arriver à obtenir le platine. J'ai adoré le faire sur PS Vita, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis bah, comme il était HD remaster, c'était pas folichon la remasterisation, surtout sur PS Vita, mais ça apportait des petites textures un peu plus sympas. Le jeu est vraiment très très bon. Le système de compétences, de magie et tout ça, il est incroyable, il est complexe à souhait, il est travaillé, il est riche, ce que vous voulez, mais il est bon.
Ouais.
Mais par contre, ce côté couloir m'a quand même toujours dérangé, et c'est pour ça que, pour moi, il passe derrière FF7. On parlait tout à l'heure de qu'est-ce qui fait l'essence d'un FF. Pour moi, il y a deux éléments. Il y a effectivement le tour par tour, enfin trois éléments. Le tour par tour, la bande originale et ce côté monde ouvert.
OK.
Et j'ai
OK.
beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir justement sur le Rebirth, parce que j'ai été très déçu du remake. Le 7 remake m'a extrêmement déçu. Bah déjà parce que, toujours pareil, c'est pas le 7, c'est qu'un remake, c'est pas un remaster, hein, c'est un remake. Donc ils ont
Oui.
changé un peu le système de jeu, les materia, qui est le système qui régit beaucoup de choses d'ailleurs dans Final Fantasy VII, les magies, les invocations, la défense, l'attaque, enfin, c'est assez central les materia. Je trouvais que c'était un petit peu en retrait dans ce set remake. Et puis le remake, et ben en fait, était le remake que du CD1. On s'attendait à avoir un remake du jeu complet. Et en fait, c'est le Rebirth et suite d'encore après qui vont conclure finalement le remake total du FF7 original. Donc j'attends vraiment beaucoup de ce Rebirth. Mais en même temps, j'en attends pas tant que ça parce que j'ai vraiment peur d'être déçu, quoi.
Est-ce que du coup vous avez peut-être, et je pense que même certainement, beaucoup d'anecdotes, que ça soit à titre perso, à titre sur le jeu en lui-même d'ailleurs?
On a déjà parlé un petit peu tout à l'heure justement sur le fait que c'était prévu à la base sur Nintendo 64 et que ce soit retrouvé sur PlayStation. Je vais
Ouais.
laisser la parole à France, parce que je pense que j'ai pas mal monopolisé sur ces anecdotes perso plutôt, ou sur le jeu si tu en as en
Ah
plus de
non,
ce que j'ai noté.
t'en avais une,
Mais j'en avais une, mais je la
vas-y,
dirai après.
c'est chaud.
Bah moi, en anecdote, j'ai des souvenirs avec mon pote JB, s'il nous écoute, il se reconnaîtra tout de suite, où on a passé des nuits entières à PEX. En se relayant toutes les heures, on se disait tu joues une heure pendant que je dors une heure et après on s'inverse. Bien sûr, personne ne dormait rien de la nuit et on passait des heures à farmer comme des cochons pour essayer de monter les niveaux. Je vous rappelle, hein, à l'époque, on était au collège, on faisait des nuits blanches les week-ends, nos parents nous autorisaient à dormir chez le copain. C'était incroyable, incroyable. Et aujourd'hui, bah, c'est comme je disais hein, au début d'émission, c'est un jeu auquel je reviens régulièrement et ça m'a suivi depuis 97. Régulièrement, j'y suis revenu. Sur différents supports, sur la PS1 bien sûr, mais aussi sur PSP, parce qu'on pouvait foutre nos ISO de jeux sur la PSP en émulation, que ce soit sur Recalbox ou Bateau Serra, sur mobile, parce qu'on pouvait aussi émuler la PS1. Donc ça m'a suivi, et à chaque fois, bien sûr, quand je me remettais dedans, c'était pour le finir, c'était pour essayer de faire une partie plus optimisée que la précédente, avoir le maximum d'objets, de magie, d'invocation, le plus d'expérience, de monnaie, les giles dans le jeu. Enfin voilà, c'est.
Parler d'optimisation, il faut savoir que je suis un maniaque de l'optimisation de la performance sur le jeu en général, hein.
Surtout.
Et surtout, oui. Stéphane me connaît bien sur ça. Ça le fait beaucoup rire d'ailleurs parce qu'on a une approche différente de notre vision sur le jeu vidéo et on est très complémentaires sur ça. Moi, en fait, sur Final Fantasy VII, quand je me suis lancé, j'ai vu un petit peu le système et je me suis dit, tiens, déjà à l'époque, en cinquième, je me disais que c'était possible de pousser l'optimisation de ces personnages, d'augmenter les matériaux au niveau maître et tout le système qu'il y avait. Et au fur et à mesure que je refaisais des parties, j'essayais toujours d'améliorer donc ce système-là. J'ai acheté en 2011 la PSP, j'ai découvert le site ff7.fr et je me suis lancé donc sur une première perfect partie, c'est comme ça que je l'ai appelée, en essayant de tout récolter et de pousser l'optimisation à fond. Et quelques années plus tard, je me suis rendu compte sur le forum toujours de ff7.fr qu'il y avait des gens qui avaient encore poussé leur partie bien plus que ce que je l'avais fait. Et ben, par orgueil et par fierté, je me suis dit, c'est pas possible.
Vous êtes
Donc,
plus
je me
loin.
suis mis un challenge, c'était en 2018, et je me
OK.
suis mis un challenge, mais vraiment un challenge de psychopathe, hein. Et je me suis dit, tiens, tu vas te faire une trame et tu vas essayer de pousser vraiment tous les compteurs au maximum. C'est ce que j'ai fait, ça m'a pris 6 mois, j'ai mis 350 heures pour le faire. Et au bout de
OK.
ces 350 heures, avec ta permission, on mettra peut-être le lien de la perfectissime partie que
Ah bah
j'ai
clairement, on peut,
justement
ouais.
montée. Je l'ai montée en fait sur ma chaîne YouTube et je l'ai proposée aux gens pour montrer à peu près le degré de psychopathe auquel j'ai atteint sur ce jeu-là, en ayant vraiment poussé l'XP, les materia, les chocobos. On a parlé beaucoup des chocobos. Il faut savoir que d'avoir un chocobo d'or, déjà, c'était à l'époque, hein. C'était vraiment quelque chose qui était incroyable parce qu'il y avait ça demandait beaucoup de temps. J'ai essayé d'en avoir le maximum possible, ce qui est 6, et de combler son écurie avec que des chocobos d'or, non seulement en or, mais avec les maximums en caractéristiques de
Ok.
vitesse et d'endurance. Et ça, c'est des choses, quand tu connais le jeu, tu te dis, mais c'est pas possible, mais le mec, c'est un malade. Il a passé. Alors, j'ai passé 100 heures à faire que des chocobos et des accouplements, 100 heures hein, de ma vie. À faire que ça en remettant le reset de la console, en relançant la partie parce que ça marchait pas. Et le gros point de la partie, c'était d'optimiser son inventaire, d'avoir en fait tous les items du jeu. Alors ça, les maniaques du JRPG, on est tous un peu pareil. On essaie de tout avoir, on essaie de regarder la petite soluce qui va bien. Mais le but, c'était vraiment de pousser et d'avoir tous les exemplaires en 99 exemplaires. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Je pense aujourd'hui, tout jeu vidéo confondu, d'arriver à maximiser à 99 tous les items d'FF7. Donc c'est présent sur cette vidéo que j'ai fait en montage. J'ai un autre projet, parce que je collectionne également. Hein, je suis
Ok.
très friand de tout ce qui est collection. J'ai même dernièrement acheté la potion à un japonais, hein, à la potion FF7 qui était vendue avec le livre pour les 10e anniversaire. Ça m'a
Ok.
coûté un bras, mais c'est dans la collection. Donc je
Ouais.
referai une vidéo pour parler en fait justement de 97 jusqu'au la partie 2 là, qui va sortir, et pour montrer l'évolution du jeu, et pour montrer le degré d'investissement et de collection également que j'ai, que ce soit dans les figurines, dans mes connaissances, et dans le savoir-faire du jeu, quoi.
Ouais, clairement, clairement. D'ailleurs, on mettra les liens dans le podcast audio aussi. Hein. Vous pourrez retrouver les liens en bas pour la chaîne YouTube du coup de Franck, la chaîne
Ouais, je te
Twitch.
pose ça dans le chat,
Voilà.
le lien de la perfectissime partie, donc
Oui.
sa vidéo montée sur sa partie ultime, quoi, avec tous les items. Moi, je peux compléter l'anecdote de Franck, parce que comme je le connais bien, je sais un petit peu, je suis un petit peu ses achats et tout ça. Puis bon, bah, sur notre groupe Facebook FF, on en parle aussi beaucoup. Il a quand même acheté un guide, c'est un guide non officiel, qui est la compilation du guide officiel, la compilation de tous les trucs et astuces, les anecdotes de chacun du site ff7.fr. Et c'est un mec qui a fait ça, qui a fait imprimer son guide, qui l'a fait relier et qui l'a mis en vente. Pareil, ça lui a coûté un bras, mais voilà, c'est un exemplaire unique et c'est lui qui l'a, quoi. Voilà, c'est pour dire le
Trop
niveau
bien.
de passion qu'on peut avoir, et je pense encore plus côté Francky, sur le jeu, la licence en général, et particulièrement sur cet épisode 7.
Et du coup, sur le jeu en lui-même, est-ce que vous avez des petites anecdotes dessus, sur, je sais pas, s'il y a des glitches, des histoires peut-être spéciales?
Ouais, j'en ai
J'en ai
plein.
aussi, ouais.
Ouais,
Alors,
ok.
vaguement. Déjà, aussi en parlant de performance, un gars s'est dit, Est-ce qu'il est possible de monter level 99 en restant au tout début du jeu, c'est-à-dire sur le premier écran du jeu? La réponse est oui. Il a mis 500 heures à tourner en rond pour pouvoir monter donc 99. Donc ils sont très peu à l'avoir fait. Moi,
Okay.
passé un moment, ça m'avait chauffé, mais il restait 500 heures vraiment à tourner en rond. Bon, il faut vraiment en vouloir, hein.
Faut être motivé.
Il faut vraiment être motivé. Donc c'était une petite anecdote assez marrante parce que c'est passé sur jeuxvideo.com. Le mec qui a le premier mondial, hein, qui a atteint en 500 heures le level 99. Autre anecdote, il y a pas mal de petites images dans le jeu qui sont dissimulées, ce qu'on appelle les eggs par les développeurs, hein. Donc il faut le savoir, c'est dans les mystères. Les mystères, on peut retrouver ça sur Internet. Mais quand on tombe dessus, bah, on est bien content parce qu'on se dit, ah tiens, j'ai vu ça. Personnellement, elles sont très bien dissimulées.
Ouais,
C'est très très dur de le voir à l'œil nu.
c'est chaud.
Et puis troisième anecdote, bah, c'est toujours aussi dans la performance, le speedrun. Le speedrun qui est très coté dans la scène française. On avait un Français qui avait fini en 7h37 le jeu, donc en one
Et
shot, hein.
nous, on y passe 300 heures. On passe.
Non, pas. Même moi qui avais essayé de le faire de speedrun, je crois que j'étais à 10 heures, hein, pour te dire, et pourtant je connais le jeu par cœur. Hein. Donc 7h37 qui a été battu, maintenant je crois que le record est à 6 heures, d'une traite, hein, bien sûr. 6 heures, c'est vraiment exceptionnel quand on voit le contenu qu'il y a. Et avec les glitches, je crois que c'est 2h20, mais il y a un
Ok.
système avec ce qu'on appelle Yuffie. Enfin, on manipule en fait les saves et on arrive à finir le jeu en 2h20. Donc
Ok.
après, bon, ça
C'est
reste un
une
record du
remake,
monde.
du coup, ou c'est vraiment juste des saves qui sont modifiés? Tu sais, non?
Non, alors il faudrait se repencher un petit peu sur le truc.
Ouais.
J'avais lâché parce que moi, c'est les records qui m'intéressent pas trop, les glitchés. Je peux faire les records en
Officiel,
one shot.
quoi, ouais.
Ouais,
No mode ou
donc.
no hack, quoi.
Et
Ouais.
je crois que de mémoire, ouais, ça devait être 2h20 et puis il y avait un trafic de save pour pouvoir
Ok.
finir le jeu et d'arriver tout de suite au boss final, quoi.
Ok.
Il y a plein de concours, il y a aussi les low level, no materia, donc se passer de tout bonus, quoi, en fait. Hein,
Ouais.
la première arme, voilà. Mais il y a pas mal, effectivement, de bugs et de glitches dans ce jeu. Il y en a qui sont problématiques, qui vont nous empêcher d'avancer sur certaines parties du jeu. Il y en a qui sont très très utiles, justement, pour avoir tous les objets en 99 exemplaires. On utilise en fait des petits bugs du jeu, ou en tout cas des fonctionnalités qui n'ont pas été prévues comme ça au départ, où justement on va utiliser une materia qui s'appelle élément W, qui permet de lancer deux objets, puis en fait on annule entre-temps et hop, ça nous duplique l'objet. Mais on faut le faire dans un moment précis, en combat,
Ouais, avec un
etc.
laps de temps et ouais.
C'est ça. Et en fait, ce glitch-là, ce bug-là, on peut l'exploiter à l'extrême avec des ennemis qui nous volent des choses, qu'après on duplique quand ils nous ont volé, faut que ce soit en tête de liste, etc. Enfin bref, il y a plein de manipulations à faire pour justement dupliquer des objets. Il y a clairement un bug qu'on exploite, mais on peut l'exploiter de différentes manières. Et ça donne, je trouve, un petit intérêt supplémentaire d'aller chercher les petits glitches, les petits bugs qui se cachent dans le jeu. Je trouve ça très intéressant.
Et du coup, est-ce que, à titre perso, vous avez d'autres anecdotes sur le jeu ou sur la saga FF d'ailleurs en général?
Alors déjà sur le 7, ouais, il faut savoir qu'il y a eu des épisodes annexes, on va
Oui.
dire soit un préquel, qui est très bon d'ailleurs, qui est un épisode PSP qui s'appelle
D'accord.
Crisis Core, qui parle de l'histoire d'un des personnages dont on voit un tout petit peu la couleur dans le 7, et là c'est le personnage principal de Crisis Core, donc c'est un très très bon opus. Ils en ont fait un remake d'ailleurs sur PS4, PS5 aussi,
Tout à fait.
l'année dernière, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça, c'était fin d'année
Fin
l'année
d'année
dernière.
dernière.
Moi, je l'ai platiné en janvier, là, pour la
Voilà.
petite histoire.
Il y a eu un épisode aussi qui a été dédié uniquement au Japon,
Ok.
qui
Ouais,
était joué sur mobile, je crois.
ouais,
Il y a
ouais.
eu
Il me semble, ouais,
des.
c'est ce que j'allais dire, parce que quand tu as parlé de mobile, il me semblait avoir lu qu'il y avait une version mobile qui
Il y a
existait
eu
de FF7. Ouais.
Bravius.
Il y a eu Bravius, il me semble qu'il y a eu Before
Le
Crisis qui
Before
était.
Crisis. D'abord Before, et après, il y a eu le
Ouais, c'est
Bravius.
ça.
Ok.
On a eu aussi un épisode sur PS2 qui était. C'était horrible. C'était un
Dirge.
shoot'em up, Dirge of Cerberus, ça s'appelle. C'était basé
Sur
sur le
Vincent.
personnage de Vincent, qui est un personnage qui combat à l'arme à feu. Et donc, bah, ils en ont fait un FPS dans l'univers de FF avec ce personnage. On recroise tous les autres personnages du jeu. Mais bon, le jeu est pas ouf. Par contre, sur PS2, en branchant un clavier souris USB, on pouvait y jouer au clavier souris comme sur PC. Pour un FPS, c'était original. Voilà, ça fait partie des
C'est plus
petites
facile,
anecdotes
voilà.
sympas. Et puis, bah, il y a le remake qu'on connaît aujourd'hui.
Alors avant le remake, il y a aussi quelque chose qui a beaucoup plu à la communauté, c'est Advent Children, le film. Les films qui sont arrivés en 2005 de mémoire. Et après, il y a eu un remaster en 2008. Et vraiment,
il y a l'animé aussi.
Et l'animé. Et vraiment, ça a propulsé en fait, la saga FF7 à son paroxysme. Vraiment, ils ont, au lieu de faire un jeu, et ils se sont dit, tiens, on va faire une saga qu'on va proposer en Blu-ray. Et quand ils ont sorti donc, ces épisodes, on voyait pour la première fois Sephiroth en Ultra HD, Cloud en Ultra HD sur sa grosse moto. Et c'est vrai que l'épisode est pas mal. Alors, j'ai pas été ultra convaincu, moi, à l'époque. J'étais encore ancré dans mes petits personnages 3D de Final Fantasy VII original. Et je me suis pas vraiment ouvert. Mais en re-regardant plusieurs fois l'épisode, c'est vrai que c'est quand même un bon épisode qui apporte en fait à la saga. C'est une suite, hein, FF7 de 97. C'est la suite directe. Et avec toute une histoire, il y a même un bouquin qui a été créé dessus, que j'ai acheté, que j'ai bouquiné. Donc voilà, et après, ils ont eu le projet du remake qui a duré plus de 10 ans, quoi. Ouais. Je crois qu'ils l'avaient annoncé en je ne sais plus quelle année.
Ouais, ça date. Hein.
Ça date, hein. Et puis bon, il est sorti en 2020, quoi.
Ouais.
En film, il y avait le film Advent Children. Et en animé, ça s'appelait Last Order Final Fantasy VII.
Ouais,
donc,
Last Order, ouais.
Vraiment animé, très très sympa. Vraiment, moi, je l'avais regardé à l'époque, il était vraiment très très cool. Et puis, okay. Ouais, en épisode annexe, on en a parlé tout, juste avant.
Et après, est-ce qu'il y a des objets à collectionner qui sont emblématiques? J'avais pas prévu de. Mais comme je sais que tu collectionnes pas mal de choses, Franck, est-ce que y a des choses, je sais pas, qui font vraiment partie du truc à avoir absolument quand t'es fan?
Alors, on verra pas la collection dans le lien que j'ai partagé, parce que je partage juste la perfectissime partie, c'est dommage. Mais dans mon futur projet de vidéo, je mettrai la collection en vidéo également. À part les figurines, alors il y a aussi donc ce débat, comme le tour par tour et le temps réel sur le jeu, le débat c'est les figurines articulées et non articulées. Alors ça, c'est vraiment un délire de collectionneur. Il y en a qui aiment bien, d'autres qui n'aiment pas. Moi, je suis partisan d'avoir la figurine un peu qui représente le jeu. Elle soit articulée ou pas, peu importe. Donc c'est vraiment basé sur les figurines. J'ai le Auvent. Le Auvent, c'est le vaisseau en fait dans lequel les personnages voyagent. Je l'ai acheté numéroté également. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu nulle part et je le possède. J'espère qu'un jour, si je déménage, je le casserai pas parce qu'il est très fragile. Les bouquins, beaucoup beaucoup de livres et de guides par rapport à l'univers. Donc ça, en tant que collectionneur, on se doit de les avoir. J'avais un projet, Stéphane n'est pas au courant. Je lui en parlerai peut-être après la vidéo. Parce que, alors, il faut savoir que Stéphane, à chaque fois que je le chauffe sur des projets, il me dit toujours oui, c'est un monstre. Il est capable de faire tout et n'importe quoi. Donc, je vais lui parler de ce projet. C'est sur de la figurine FF7 que je voulais faire, en fait, pour ma future vidéo. Le projet était avorté. J'avais rencontré, en fait, un Belge qui faisait de l'impression aussi en 3D. Et il m'a dit que c'était pas possible, ce projet-là. Donc, je vais voir avec Stéphane. Ça sera pour 2024. Mais vraiment, ce qui est très drôle, et Square Enix l'a fait, c'est de rééditer des personnages de la licence, pas en version grande et très détaillée, mais la version polygonée, en polygone, comme on les avait à l'écran à l'époque.
Ouais, sur la PlayStation de l'époque, quoi.
C'est un carton plein, mais un carton monumental. Et donc, moi, j'avais eu pour projet de me recréer, en fait, toute la scène, toute l'historique du jeu, en figure polygonée, vraiment avec le serpent, le Zulum de Midgar qu'on voit, qui est vachement mythique, Sephiroth, plus les personnages. Et ça, c'est un des projets qui me tient le plus à cœur, pour me dire, voilà, j'ai atteint le niveau extrême, je pourrais pas aller plus que ça. Et vraiment, quand on est fan d'FF7, je pense que quand tu vois cette petite figurine polygonée, ça prend le pas sur tout le reste. Et tu te dis, ah ouais, ça c'est génial, c'est du old school, c'est du rétro, ça j'adore, je prends.
Ok. Bon, super. On va finir sur un truc assez basique. J'ai regardé un petit peu les prix, parce que du coup, c'est vrai que je ne m'y intéressais pas trop. Et ça reste des jeux qui sont assez facilement accessibles, en vrai. En tout cas, le 7, le 8, la plupart des épisodes PlayStation sont très accessibles. On tourne sur PS1, j'ai vu, entre 25-30 euros, suivant l'état. Sur PC, c'est plutôt une vingtaine d'euros, mais ça, c'est... Je pense que la plupart des jeux sur PC, ça devient compliqué de les vendre cher. Et la version remake, pareil, on en trouve même à 15 balles. Donc, c'est vraiment un jeu qui est assez facilement accessible. Après, en version, si tu devais conseiller une version, Stéphane, du coup, ça serait vraiment la version modée, toi ?
Aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut découvrir la licence, ouais, je conseillerais la version modée. Par contre, il faut une version originale. Là, pour le coup, ça peut être intéressant de se trouver la version PC pour 20 balles et encore, on la négocie à 10 ou 15. juste pour avoir l'original et installer le mode avec les graphismes HD et on choisit ce qu'on installe.
Oui, comme ça, tu as le
Après,
choix. Ouais.
je pense que Franck sera d'accord avec moi. La version PS1, support d'origine, sortie à l'origine, ça reste l'expérience originelle. Nous, en tout cas, on est un peu puriste là-dessus et ça serait notre choix premier. Mais effectivement, la version modée, patchée avec les graphismes HD, les musiques, orchestre symphonique et tout, et les traductions qui donnent beaucoup plus de sens au dialogue,
Ouais.
ouais, on sait, hein.
Aujourd'hui, quelqu'un qui possède Steam, je lui conseille vraiment de le prendre sur Steam et bah justement d'aller chercher ce patch. C'est pas très compliqué. Moi, j'y connaissais pas vraiment grand-chose. J'ai réussi à installer le patch assez facilement. C'est très bien expliqué sur le site ff7.fr et de jouer avec la traduction sur la version Steam. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de bonus. Alors, les bonus, c'est la version PlayStation là. Maintenant, sur PlayStation 5, on peut reprendre, l'acheter hein, sur le store
Ouais, le
et le
Play Store,
télécharger.
ouais.
On va avoir. La vitesse x3, on va avoir tous les bonus d'invincibilité. Alors, même si on peut s'en passer clairement, moi, une perfectissime partie, je ne l'aurais jamais fait sur ce genre de support, parce que je sais très bien que j'aurais eu des réflexions du style, ah bah oui, t'as utilisé les bonus. Alors que sur la version Steam, finalement, elle est brute, elle est cash, c'est la version d'origine, et vraiment, on peut profiter du jeu comme à l'ancienne, avec les graphismes améliorés, et avoir le patch de retraduction.
Si on fait un petit point sur l'actu de chacun, je sais pas qui veut commencer du coup à nous dire un petit peu ce qu'il en est.
Ben moi, les actus, ça va être toujours essayer de faire progresser ma chaîne Twitch avec de plus en plus de réparations. D'ailleurs, j'en ai à toi qu'il faut que je finisse.
C'est vrai.
Je perds pas mal de lots en ce moment. Donc, effectivement, les lots d'Emule-moi, j'ai un Forea qui m'en a confié. Je bosse pas mal avec Cash Converter à Oulin, près de chez moi. Donc, là, je commence à avoir du stock pour les semaines et mois à venir. Donc, c'est bien, ça me fait pas mal de contenu pour la chaîne. Et puis, bah, j'essaye de faire progresser la chaîne aussi avec des petites animations en plus, des interactions avec les viewers. Là, j'ai fabriqué une machine à fumer la semaine dernière, par exemple. Je voudrais rajouter des choses encore pour pouvoir interagir dans mon environnement, dans le stream. Voilà, ça, c'est mon actualité récente. Donc, moi, on me retrouve tous les lundis pour du jeu rétro. Et là, en ce moment, bah, c'est Fil Rouge JRPG. Et tous les jeudis pour de la réparation ou du modding de console. Et de temps en temps, il y a un petit stream sauvage qui pop quand j'ai pas mon fils ou j'ai un petit peu plus le temps. Voilà.
Trop bien. Et
Ok.
pour toi, Franck?
Oh, bah moi, ça va être de continuer à raconter des conneries sur les réseaux sociaux. J'essaie de faire rire un peu tout le monde. D'animer mon groupe Facebook.
Ouais.
Faut savoir qu'on était une quinzaine au tout début quand je l'ai lancé. On est 250 maintenant. C'est sympa. On vient tous d'univers différents, de genres de jeux différents. Alors, c'est un groupe à taille humaine. Familial, mais il se dit, on va dire que je mets ma petite patte, c'est-à-dire que j'anime, je suis très chambreur, comme je suis sur la performance, même mon comparse Stéphane, je l'ai beaucoup chambré, alors qu'il fait beaucoup de choses en à côté, je le sais, mais je lui disais, vas-y, lance-toi, finis le titre, va chercher le trophée platine. Alors, on lance beaucoup de débats sur ça, hein, sur la pertinence d'aller chercher un trophée ou non sur un jeu. Bon, il connaît mon avis, il sait sur quoi je fonce. Donc là, jusqu'à la fin d'année, bah, ça va être du trophée platine sur plein de jeux. Là, je vais peut-être fêter mon 43e trophée de l'année, hein. Cette semaine, je suis sur tout le style narratif, plateforme, horreur, RPG. J'essaie de toucher à tout. J'avais un peu de retard. J'étais beaucoup sur World of Warcraft pendant de longues années,
Ok.
sur les fils rouges également,
Ouais.
FF7 qui m'a pris beaucoup de temps. Donc, en fait, je me suis dit, allez, cette année 2023, tu rattrapes un peu ton retard. Faut savoir que j'ai acheté la PS5 à la sortie de God of War Ragnarok. Là, je suis très fan de God of War, pas autant qu'FF7, mais c'est mon jeu de cœur qui arrive en deuxième position. J'ai même fait un cosplay à la sortie de God of War Ragnarok, qui est sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. Donc voilà, donc j'ai encore pas mal de projets sur le platine de jeu. Et sur 2024, eh ben, finir ce fil rouge FF, enfin. Je finis les trois Final Fantasy XIII qui me restent à platiner. Le FF14 en ligne également, ça va être une grosse partie. Faut savoir
Ouais.
que c'est 5 mois minimum pour le platine, parce qu'il y a un trophée justement qui demande du farm et une connexion obligatoire pendant 5 mois.
Ok.
C'est un peu fourbe de leur part, mais bon, c'est comme ça si on veut avoir le trophée. Donc je ferai ma vidéo récap de tous les FF. Je ferai d'ailleurs ça avec des intervenants du groupe, qui, comme moi, parce que je ne suis pas le seul à aller chercher hein, tous les platines. On est trois notamment là. On est trois à se tirer un peu la bourre sur ça. Donc c'est cool, ça met du dynamisme.
Ouais, ça fait
Puis
du
le
challenge.
sport, parce que le jeu vidéo, c'est bien, mais j'essaie de garder la ligne de conduite. À la fin d'année, je fais toujours un récap de mon année et je parlerai donc de tous les jeux que j'ai faits, tous les livres que j'ai lus et notamment toutes les heures de sport que j'ai pu m'octroyer. J'ai la chance, je suis sans enfant, je suis marié, mais j'ai pas d'enfant, donc j'ai du temps. J'ai du temps pour moi, ça, c'est un luxe hein, que beaucoup ne peuvent pas se permettre. Donc j'en profite à fond, je vis à 100% et du gaming, du gaming, du gaming.
Trop bien, trop bien, trop bien. Donc vous verrez, hein, vous aurez les liens aussi dans le podcast audio vers la chaîne Twitch de Stéphane et vers la chaîne YouTube de Francky. Comme ça, vous aurez tout. Et puis voilà, voilà. En tout cas, merci à vous deux parce que vraiment,
Avec
c'était
plaisir,
cool.
merci à toi, ça
En
roule.
tout cas, merci. Je vous fais des bisous. Et
Allez,
puis
merci à toi. Ça
à
marche.
bientôt, au
À bientôt.
plaisir.
À bientôt.
Ouais,
Ciao.
ciao, ciao. Voilà, c'était le cast rétro spécial Final Fantasy VII. Vous pouvez retrouver les liens en description de tous les intervenants et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!